Merci d'écouter RFI. Il est 1h à Paris, 23h en temps universel.
Mathis Limano.
C'est la nuit de tous les dangers. Le message posté par l'eurodéputé Rima Hassan sur ses réseaux sociaux avec 11 autres militants dont la suédoise Greta Thunberg. Ils sont en route pour la bande de Gaza à bord d'un voilier. Objectif, briser le blocus israélien imposé au territoire palestinien. Ces dernières 24 heures, 104 personnes ont été tuées, notamment lors d'une distribution d'aide. La Russie lance une offensive contre la région de Dnipropetrovsk. Le commandement ukrainien sur place dit tenir le front. Pas de réaction à ce stade de la présidence. Cette région est un nœud stratégique pour Kiev. En Colombie, une centaine d'enquêteurs cherchent à identifier les commanditaires de l'attaque contre Miguel Uribe. Le sénateur candidat à la présidentielle 2026 est dans un état critique. Il a été touché par 2 balles à la tête lors d'un meeting de campagne. Et puis le Portugal remporte la Ligue des Nations. Au terme d'une séance de tirs au but, les Portugais sont venus à bout du tenant du titre, l'Espagne. Dans la bande de Gaza, ce nouveau drame autour de la distribution d'aide. 5 personnes ont été tuées hier alors qu'elles venaient récupérer des vivres. Ces dernières 24 heures, au moins 104 personnes sont décédées dans l'enclave, d'après la défense civile. Par ailleurs, Israël a ordonné à l'armée d'intercepter le Madlin, bateau humanitaire transportant la députée européenne Rima Hassan et la militante Greta Thunberg. Michel Paul, le navire veut défier le blocus israélien et accoster à Gaza.
Le Madlin s'approche des côtes de Gaza et le ton monte côté israélien. Sur son compte Telegram, le ministre de la Défense, Israël Katz, indique qu'il a ordonné à l'armée d'empêcher l'arrivée du navire humanitaire. Il s'adresse directement à l'écologiste suédoise Greta Thunberg, qu'il qualifie au passage d'antisémite. « Faites demi-tour, car vous n'arriverez pas à Gaza. Israël ne permettra à personne de forcer le blocus de Gaza », dit encore Israël Katz. Le but du blocus pour le ministre est d'empêcher le transfert d'armes au Hamas. « Nous sommes 12 civils non armés », proclame de son côté l'eurodéputé Rima Hassan. « Nous resterons mobilisés jusqu'au bout », ajoute-t-elle, « jusqu'à ce qu'Israël coupe Internet et les réseaux ». D'après son équipage, le bateau a subi aujourd'hui un brouillage de son système de géolocation. Le scénario le plus probable est que le voilier qui transporte une cargaison humanitaire symbolique soit remorqué jusqu'au port d'Ashdod, au nord de l'enclave palestinienne, et que ses passagers soient ensuite placés dans le premier avion à destination de l'Europe. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Le Madlin longe actuellement les côtes de l'Égypte. La nuit qui arrive est celle de tous les dangers, écrit Rima Hassan sur ses réseaux sociaux. Alors que les négociations de paix sont dans l'impasse, l'armée russe lance une offensive contre la région de Dnipropetrovsk, une première en plus de 3 ans de guerre. Pas de commentaire à ce stade des autorités de Kiev. Seul un commandement du sud du pays assure que les soldats ukrainiens tiennent le front. Que sait-on vraiment de cette attaque? Peut-on réellement parler d'une offensive? Écoutez l'avis d'Ulrich Bouna, analyste géopolitique, joint par Arim Lipold.
Finalement, on savait que les troupes russes étaient très proches de la frontière de Dnipro, de l'oblast de Dnipropetrovsk, donc qui est finalement collé à celui de l'oblast de Donetsk. L'endroit où ça se situe, c'est un petit peu à une trentaine de kilomètres au sud de Pokrovsk, donc qui est l'un des nœuds principaux de résistance ukrainien dans cette partie du Donbass que les Ukrainiens contrôlent encore, qui se situe donc un peu au sud du Donbass. Et donc effectivement, on savait que les Russes essayent de, grosso modo, contourner Pokrovsk par le nord et par le sud. Donc effectivement, ils ont franchi la frontière entre l'oblast de Donetsk et celui de Dnipro. D'un point de vue militaire, si pour être tout à fait honnête, ça change pas grand-chose. Hein, c'est une limitation administrative plus que militaire. En revanche, effectivement, les Russes l'utilisent comme un symbole pour montrer que leur avancée est inexorable. Donc on est, à mon sens, là, plus finalement sur une opération un peu plus de communication qui permet aux Russes de montrer au monde entier, et notamment à leur population, qu'ils avancent et que c'est inexorable. Mais encore une fois, c'est d'un point de vue militaire, ça change pas grand-chose.
Et l'annonce de cette attaque intervient alors que l'échange massif de prisonniers de dépouilles prévu ce week-end a été reporté à la semaine prochaine. Renault confirme avoir été contacté par le ministère français des Armées. Le constructeur automobile français pourrait s'allier à une PME tricolore de la Défense pour produire des drones directement en Ukraine. Aucune décision n'a encore été prise, indique la direction de Renault. Et puis, la présidente du Mexique demande à Washington de ne pas traiter les migrants comme des criminels. 35 ressortissants mexicains ont été arrêtés ces derniers jours dans des opérations de ratissage à Los Angeles, la deuxième ville des États-Unis où des militaires de la garde nationale ont commencé à se déployer sur ordre de Donald Trump. Dénonçant l'anarchie dans la ville, le président entend rétablir l'ordre après des manifestations parfois violentes contre sa politique migratoire. Les gouverneurs démocrates dénoncent un abus de pouvoir alarmant. RFI 16h05 à Bogota. Le candidat à la présidentielle colombienne blessé par balle est toujours dans un état critique. Miguel Uribe, touché de 2 balles à la tête, a subi une première intervention chirurgicale. Alors qu'il tenait un meeting de campagne à Bogota, un individu a ouvert le feu blessant 2 autres personnes. Le tireur a été interpellé. Il s'agit d'un mineur d'après la police, sans que l'on connaisse à ce stade des éventuels commanditaires. L'exécutif s'est saisi de l'affaire. Écoutez le président colombien Gustavo Petro.
Nous voulons avant tout garantir la plus grande transparence de l'État dans sa capacité à enquêter et à identifier les commanditaires de cette tentative d'assassinat. Aucune ressource ne doit être épargnée, pas un seul peso, pas un seul moment d'énergie. Tout sera mis en œuvre pour retrouver les commanditaires, leur nom, l'endroit où ils vivent, qu'ils se trouvent en Colombie ou à l'étranger. Nous, les Colombiens, nous devons concentrer tous nos efforts, toute notre énergie, tout notre cœur pour nous assurer que le docteur Miguel Uribe Turbay reste en vie.
Miguel Uribe Turbay.
Une 100 d'enquêteurs de la police sont mobilisés, a déclaré le ministre de la Défense. Des Colombiens se sont réunis à Bogota, allumant des cierges devant l'hôpital où est hospitalisé Miguel Uribe, le sénateur, je vous le rappelle, qui est toujours dans un état critique. La Colombie, où la terre a tremblé ce dimanche, les habitants de la capitale et de plusieurs villes du pays pris de panique. Ça s'est passé vers 13h, temps universel. Aucune victime n'est à déclarer à ce stade. Ce séisme de magnitude 6,5 est l'un des plus puissants senti en Colombie ces dernières années. En Espagne, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, accusé de corruption par des dizaines de milliers de personnes à Madrid, le Parti Populaire, formation d'opposition, a appelé à ce rassemblement après la fuite d'enregistrements audio mettant au jour une campagne de dénigrement contre une unité de police. Unité de police qui enquête sur des accusations de corruption impliquant la femme de Pedro Sanchez, son frère et son ancien bras droit. Top départ ce lundi pour la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. L'événement qui réunit scientifiques et dirigeants se déroule à Nice cette année, dans le sud de la France. Et alors que nos sociétés tendent à oublier le rôle essentiel de l'océan, régulateur du climat, producteur d'oxygène, eh bien, pour certains, le lien au grand bleu est bien plus fort, existentiel même. C'est le cas du peuple Kuna. Pauline Glaise, vous en avez rencontré des représentants en marge de la conférence.
Le territoire Cunayala s'étend sur un archipel et une bande côtière du Panama. Adriano Pérez en est le cacique général.
Pour nous, la mer n'est pas une ressource, c'est un territoire, une culture et un esprit. Notre vie, nos champs, nos normes, notre vision du monde tourne autour de la mer et des forêts.
La mer des Caraïbes, il la voit changer en raison du réchauffement climatique et des détériorations des récifs coralliens.
Auparavant, l'eau ne montait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est différent. Quand la marée monte, elle déborde dans les rues. L'eau a commencé à manger les plages. Il va y avoir des conséquences sur la pêche et puis nous sortons des plantes médicinales de la mer.
Face à la montée des eaux et aux inondations pluviales, la communauté d'une des îles densément peuplée s'est relocalisée sur le continent il y a un an. Nadia Herman, représentante d'Isberiala.
Le changement n'est pas facile pour nous et nos enfants. Il faut encore s'habituer au fait que maintenant, là où nous sommes, ce n'est plus la mer, mais la terre. Mais nous essayons de continuer à avoir recours à lui parce que c'est notre océan, c'est notre vie. Nous ne pouvons pas nous en détacher.
Tous les habitants n'ont pas accepté de partir. Pour combien de temps encore ? La plupart des îles de Cunayala devraient un jour être sous l'eau. Pauline Glaise, Nice, RFI.
Et l'actualité en France, ce sont ces 450 personnes qui ont participé silencieusement hier à une marche blanche organisée à Marseille en hommage à Hichem Mirawi, quadragénaire tunisien tué dans le Var le 31 mai. Un crime qualifié de terroriste et raciste par la justice française. À Munich, ce sont les Portugais qui ont soulevé le trophée de la Ligue des Nations après une séance de tirs au but. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont imposés sur les Espagnols tenants du titre. De la pelouse de Munich à la terre battue parisienne, Carlos Alcaraz garde sa couronne en remportant Roland-Garros pour la 2e année d'affilée. L'Espagnol est venu à bout du numéro 1 mondial Yannick Sinner en 5 manches, un combat homérique qui a duré 5h29, battant ainsi le record de la plus longue finale au tournoi parisien. RFI, il est 1h10 à Paris.